Bonjour à tous les élèves de 5e 3 et 4. Vous vous lire des contes en légende le Rhin et Volga dans la carte de nuit de la lecture.
De toutes les fées qui vivaient dans la région de Gérardmer, Polybote était la plus puissante et la plus redoutée. Elle habitait la montagne de Yémon dans une grotte au cœur de la forêt de Martipé. Elle avait mauvaise réputation car sa méchanceté s'était exercée à plusieurs reprises aux dépens de paisibles Gérardmois. Sa laideur physique était proverbiale, aussi était-il rare qu'un habitant à la recherche du bois mort osa se hasarder dans les parages de la grotte qui était, affirmait-on, le vestibule de son palais.
Or, un jour, un noble chevalier qui accompagnait le duc de Lorraine à une chasse à l'ours, dans les environs de Gérardmer, s'égara dans l'immense forêt. À la nuit tombante, fatigué, son cheval fourbu, il avisa une anfractuosité de roc qui sembla un abri suffisant pour passer la nuit. Il décida donc de s'y reposer, avant de rejoindre ses compagnons le lendemain. Mais c'était la grotte de la redoutable fée Polygote.
À peine le chevalier avait franchi le seuil qu'il se vit soudain enveloppé d'une éblouissante clarté. Dans le fond de la grotte, les rochers semblaient s'entrouvrir sur une salle immense, aux resplendissants murs de cristal. Le sol était recouvert d'un gazon coupé ras, où l'on apercevait des fleurs splendides qui embaumaient l'air d'un parfum capiteux et ensorcelant. Une musique vaporeuse, irréelle, paraissait jaillir des profondeurs de l'antre, sans que l'on pût distinguer les musiciens.
Surpris, le chevalier s'arrêta et, se passant la main sur les yeux, « Par le diable et par l'enfer, je ne rêve pas, mais où suis-je donc ?» Mais il était très brave et résolument, il avança. Alors il vit venir à lui une vieille dame très grande qui portait sur le front un diadème orné de pierres, plus précieuses les unes que les autres. Elle était entourée de nains, d'elfes et de sauterets qui formaient un cortège enchanteur. De sa voix douce et légère, elle invita le chevalier à devenir son hôte pour la nuit. Cette dame, c'était Polybote.
Le chevalier accepta son hospitalité, conscient qu'il allait certainement vivre une expérience hors du commun. Polybote lui indiqua une couche de fleurs fraîches sur laquelle il s'allongea. Puis les elfes et les nains, dansant et chantant, lui servirent, comme ils auraient fait à un dieu, des mets succulents et des boissons merveilleuses. Mais le temps défilait et le chevalier commençait à penser qu'il devrait rentrer bientôt. Face à lui, Polybote le regardait étrangement. Ses yeux brillaient. Elle déployait tous ses stratagèmes inimaginables pour animer la conversation et faire naître l'amour, car elle avait trouvé sa moitié. Elle en était sûre. Le chevalier comprit et se sentit soudain mal à l'aise. La fée, au premier abord, était attirante par sa gentillesse et sa richesse.
Mais son charme était inexistant. Elle était laide et son visage était couvert de rides aussi profondes que le sont les vallées de la montagne. Noble chevalier, l'aube va bientôt poindre derrière les grands sapins. Votre départ me rend triste car, malgré ma puissance, je m'ennuie et j'aurai besoin de votre amour si vous consentez à m'en donner.
Noble dame, vous êtes merveilleuse. Et c'était un cadeau inespéré de vous rencontrer. Que de vous rencontrer. Mais ma femme et tous mes compagnons m'attendent dans mon château. Je ne puis les abandonner.
Comment cette vie aussi misérable que celle que tu mènes peut t'attirer? Je t'aurais pourtant offert bien du bonheur. Mais si tel est ton désir, alors va. Mais prends garde à toi, car la bise du matin est glaciale en cette saison.
Sa voix était menaçante et son visage s'était fait plus rude. Le pauvre chevalier en frissonna d'horreur. Déterminé à quitter les lieux sans plus tarder, il se leva et s'approcha de l'entrée de la grotte. Brusquement, un énorme bloc de glace se détacha de la paroi rocheuse et l'emprisonna tout entier.
Aujourd'hui encore, lorsque l'on s'aventure dans les bois près de Gérardmer, on peut voir, dans la fente de Kertoff, de la glace à n'importe quel moment de l'année. Alors, si vous passez par là, ne vous laissez pas prendre au piège.
Le sauteret. Tous les pays possèdent des lutins, des génies, les ingés, bienfaisants et serviables. Les autres jaloux, méchants et moqueurs. Les premiers, heureusement, prédominent, mais ils empruntent parfois au caractère des seconds. Comme les humains, ils ne présentent pas la perfection. On peut même dire, en évoquant le célèbre mot de Voltaire à propos de Dieu et de l'homme, que les campagnards, en créant des lutins à leurs images, ont fait que ceux-ci le leur ont bien rendu.
En Europe, ces êtres ou esprits occupent surtout la partie septentrionale du continent. Et en France, on les rencontre plutôt dans les montagnes, appelés elfes, drones, brownies en Scandinavie et en Écosse, kobolds, trolls en Allemagne, korrigans en Bretagne, gobelins en Normandie, servants, esprits servants en Suisse, dans le Bugey et la Franche-Comté, ou encore Foulto, Follet dans ses dernières provinces, le lutin devient le sautret en Lorraine, où il hante plus particulièrement les Hautes-Vosges.
Le sautret, d'où le nom, issu du patois, signifie sorcier, est généralement assez bon, affable, serviable, et en même temps que susceptible et espiègle. S'il va tourmenter les fées de Landaville, ou accompagner le diable dans ses tournées, ou, encore, pousser les gens dans un précipice. Ce ne sont là que qu'exceptions, un peu comme si, chez les humains, le gendarme devenait voleur, ou le médecin criminel. Sauver le dépeint comme un petit bonhomme laid, difforme, aux pieds fourchus.
Tantôt, il se montre vêtu d'une houppeloupe rouge et coiffé d'un bonnet noir. Tantôt, il porte une houppelande noire et d'un bonnet rouge, bien que sa taille ne dépasse guère celle d'un enfant à la mamelle. Il est doux, d'une force extraordinaire, malicieux et enjoué. On le dit bon et serviable à ses heures, mais aussi gourmand, quelque peu pliard et paillard, curieux, effronté, vindactif. Bermer le décrit pas plus haut qu'un enfant de 5 ans. Laid, difforme, velu, vêtu d'un sarrau noir bordé de rouge et coiffé d'un bonnet rouge et pointu.
Pour Pitz, il porte un habit et un chapeau rouge, des sandales de cuir. Enfin, Adam, qui lui en voulait sans doute de s'attaquer à ses chères fées de Landaville, le montre avec des cornes, une grande queue, des pattes de bouc, et malpropre au point de salir tout ce qu'il touche. Le fils du diable, en somme. Nous voilà donc avec tous ces portraits, bien renseignés sur le sautret, tant au physique qu'au moral.
Le jour, le sautret se tapit et sommeille dans le fond d'un puits, les roseaux d'une rivière ou d'un étang, ou encore dans un clocher. Et pour hanter ce dernier refuge, il doit probablement se munir des boules qui hissent. Notre lutin possède la faculté de se rendre invisible, de se faire si petit qu'il peut aisément se faufiler par la chatière d'une porte, ou même par le trou de sa pierre à eau.
La nuit, lorsque tout repose, le sautret se livre à de nombreuses activités. Si l'on entend un meuble craquer, le plancher grincer, on peut se rendormir tranquillement. Le lutin fait sa ronde, examine si tout se trouve à sa place, si nul incendie ne risque de se déclarer. Quand une servante lui plaît, il balaie le logis, lave la vaisselle, essuie, la range et, vers le matin, allume le feu et bat le beurre. Et la fille, à son réveil, est toute ravie de trouver son travail fait, et très correctement.
En revanche, s'il n'aime pas le domestique, il répand de la poussière sur les meubles, perce le fond des casseroles, des pots, met des cheveux dans le beurre, urine dans les seaux de lait, fait tout ce qu'il peut pour lui attirer les reproches et la colère de ses maîtres. Le sautret s'occupe aussi des animaux. Il éveille les chevaux, leur donne à boire, à manger, les étrille, mais s'amuse quelquefois à emmêler leurs crinières. Il apporte du fourrage aux autres bêtes de l'étable, renouvelle leur litière, traie les vaches, et l'on dit que celles dont il prend un soin particulier donnent beaucoup de lait, sont grasses et en bonne santé, tandis que les autres deviennent ou restent maigres, peu productives.
C'est encore lui qui fait téter les veaux, qui éloigne les belettes et renards des poulaillers, qui retire les mauvaises herbes du trèfle et de la luzerne destinée aux lapins. De plus, si l'on a ramassé des champignons, il est bon, le soir, de les laisser à la grange,
un vrai expert, le sauterait éliminera ceux qui sont vénéneux, les jettera sur le fumier, et l'on pourra déguster les autres en toute tranquillité. Dans la nuit, quand un enfant s'agite, pleure, puis se calme, c'est le sauterait qui est venu le bercer, lui fredonner une douce chanson à l'oreille.
Si le lutin se prend d'affection pour un marmot, on peut être sûr que celui-ci aura de l'esprit, du cœur, de la santé, de l'adresse, de la chance. Le sauterait aime tant les enfants qu'il lui est arrivé, dit-on, d'en porter quelques-uns. Ou, personne ne le sait. Il se met à leur donner une bouillie qu'il prépare avec du lait et on ne sait pas quoi d'autre, car elle présente un aspect noirâtre, pourtant elle s'avère très fortifiante.
La sauterait, si friand de leur lait, a une singulière façon de traire les vaches. Il commence par leur enlever les cornes, et si on le dérange durant son travail, il s'en va, ne les remet pas en place. D'ailleurs, si l'on vient à surprendre notre lutin, que ce soit à l'étable, au logis ou autre part, il faut agir comme si on ne le voyait pas, et s'abstenir de lui adresser la parole, sinon il se fâche et peut devenir méchant.
Un jour, dit Gazin, une femme dont il soignait l'enfant ayant parlé, il s'enfuit en jappant comme un jeune chien. Pourtant, si l'on en croyait Richard, à sa poix on le chassait, en lui adressant de dures paroles. Aussi étrange que puisse paraître, le sauterait a horreur du rouge, qui est pourtant la couleur de ses habits. Pour l'éloigner des lieux qu'il fréquente, il suffit d'y suspendre un chiffon rouge.
On dit d'une branche de houx placée à l'écurie opère le même résultat. Notre lutin n'aime pas la malpropreté, sur lui comme sur les autres. Il se montre volontiers conquêt. À Gerbamont, une bande de sauterets fréquentait autrefois la campagne. Et le plus petit avait coutume d'accoster le premier venu pour lui demander comment il trouvait son chapeau. Il ne faisait pas bon, alors, dire du mal de cette coiffure ou se moquer de celui qui la portait, le sauterait devenait souvent, soudain, d'une humeur massacrante. Et l'on pouvait redouter sa vengeance. Au contraire, s'il recevait des compliments, on était assuré d'avoir en lui un allié.
Le houran, monstre imaginaire, dans le nom emprunté au patois, signifiait crier. Hantait le sud des Vosges. Il se tenait de préférence sur le haut roc, montagne dénudée qui domine le bassin de la Moselotte, ou sur les rochers d'Urbain Roche, au-dessus du Rochesson. Quelquefois, on l'entendait au Saint-Mont, ou en face, près du Don Martin, sur le mont qui s'élève entre la vallée de la Moselle et celle de la Moselotte, non loin du confluent des deux rivières. Il fréquentait aussi le Val de Cleury, et allait même jusqu'à Tendon. Il affectionnait les hauteurs, d'où il pouvait voir, de son œil perçant, ce qui se passait dans les montagnes et la vallée des environs, et contrôlait ainsi le territoire d'une vingtaine de communes.
Ces cris stridents, ou, effrayaient surtout les ouvriers de la forêt, et plus spécialement les voleurs de bois. Ces derniers opéraient généralement dans la nuit. Sitôt arrivés sur les lieux, ils allumaient un grand feu dans une clairière et se mettaient à abattre les arbres de leur choix. Il n'était pas rare, alors, que le houéran, guidé par la lueur du brasier, ne surgit dans la coupe en poussant ses cris lugubres.
Ceux qui l'ont vu le décrivaient ainsi, d'une taille de géant, la barbe longue et hirsute, les yeux flamboyants, les jambes sèches et torses comme celles d'un bouc. Il portait un large chapeau noir à bord rabattu, et son postérieur était une tête de bouc dont les deux cornes lui servaient pour s'asseoir près du feu. Il prenait dans ses mains des tissons ardents sans se brûler.
À son approche, les délinquants s'enfuyaient à toutes jambes, car ils craignaient moins les gardes des forêts qu'il ne redoutait le Houerrant. Cet être fantastique, cousin du diable, des sorciers, des chasseurs maudits et autres mauvaises vengeances.
Ce monstre, dont il semble que le rôle consistait uniquement à épouvanter les charpateurs de bois, était sans doute l'ingénieux travestissement que quelques gardiens de la forêt, ayant compris que la peur d'un être horrible et mystérieux serait plus forte que celle du gendarme pour protéger les bois des nombreuses déprédations qui s'y commettaient.
Les cris effrayants provenaient tantôt des grands-ducs et autres oiseaux nocturnes, tantôt du garde lui-même, expert dans l'art d'imiter la voix de ces volatiles. Gabriel Gravier, auteur de « Légendes des Vosges », collection du Moulin Bleu, E.D. Belfort, quelques extraits.
School Radio, les ados, lâche le micro.